cristal.
Ouais.
Même Kant.
Patrick.
Tu as cité à la toute fin Spinoza. Et je me souviens que j'ai lu en même temps la critique de la raison pure, notamment l'antithétique et la première partie de l'éthique, jadis. Et que je n'ai jamais pu m'empêcher de penser que le véritable adversaire là-dedans, ce n'est pas Leibniz, mais c'est Spinoza. Aujourd'hui, j'en suis peut-être moins convaincu, mais je me demande s'il n'y a pas une explication au moins psychologique à cet étrange mélange qui te déconcerte entre la partie et la cause dans la formulation première de la thèse. Parce que le seul contenu intellectuel auquel ça puisse faire référence et qui puisse lui donner un sens à cette étrange juxtaposition, c'est la référence à la causa sui de la substance. Mmh. Me semble-t-il.
Oui, non, mais je pense que précisément ça, c'est ce qui donnerait son intelligibilité à T', c'est-à-dire à la fin, il y a un être absolument nécessaire qui à chaque fois est pensé sur le mode de la cause et qui est soit le tout, soit la partie. Et Kant interprète Spinoza comme affirmant que le tout est l'être absolument nécessaire qui, en effet, sur un mode causa sui et causalité immanente, et l'être absolument nécessaire dont il s'agit. Ça marche pour la reformulation, mais ça ne marche pas pour la thèse. Parce qu'encore une fois, la thèse distingue la partie et la cause. Et donc, au fond, elle fait signe vers ce qui est pourtant condamné dans sa preuve, à savoir une cause non mondaine. Et si elle fait signe vers ça tout en le niant, c'est précisément dû à ce déséquilibre entre une volonté d'inscrire dans le monde ce questionnement et la nécessité de sauver la thèse, puisqu'on est dans... censément deux propositions subcontraires qu'il faudra dire vraies toutes les deux.
Mais dans ce cas-là, je comprends tout à fait ce que tu dis, mais ce qui serait étrange dans ce cas, c'est le début de la formule, c'est « au monde appartient quelque chose ». Parce que c'est ça qui exclut que la cause puisse être le tout, dans la première formulation.
Non, je pense que, alors, si on veut donner un sens à cette première formulation, le verbe allemand, c'est « Gehör ». Si on veut donner un sens à cette formulation, je pense que l'appartenance, si elle doit être plus large que l'inclusion, on peut simplement dire que l'appartenance désignera et l'inclusion de la partie dans le tout, et le tout lui-même. C'est-à-dire l'identité appartient au monde parce qu'il l'est, si tu veux.
Pourquoi pas quelque chose qui appartient au monde, mais comme quelque chose d'extérieur au monde, c'est ça que...
Mais comment on peut appartenir à en étant extérieur ? Ah, ça, pour moi, c'est pas un sens non méréologique de l'appartenance, c'est un sens purement abusif de l'appartenance.
Juste au sens où c'est une cause qui appartient à son esprit.
Oui, mais justement...
Ce qui est assez impossible, cette interprétation-là, dans le sens où après,
ben oui.
Les deux commencent, mais ce nécessaire appartient lui-même au monde sensible, car supposons qu'il soit en dehors. Donc,
voilà. Cette appartenance, elle désigne une non-extériorité, strictement. C'est pour ça que ça marche pas. Mais le problème, c'est que si c'était simplement une question de formulation dans la thèse, ce serait pas grave, on dirait, il dit appartenir, il a mal choisi son mot, parce que justement... Sauf que tout est deux est là pour prouver que cette appartenance, elle a entendu en un sens fort. Et c'est pour ça que ça marche pas.
Ce qu'on pourrait dire, soit comme sa partie, soit comme sa cause, et quand il parle de cause du monde, on pourrait se dire qu'implicitement, il veut dire quelque chose qui est extérieur au monde.
Ouais, sauf qu'il le nie, du coup, ça marche pas. Ah, j'y ai pensé, parce que le parricide n'est jamais heureux. Hein. J'ai essayé de le sauver en me disant la catégorie de la modalité est spécifique, parce qu'en effet, il y a deux distinctions qui se croisent. D'une part, les catégories mathématiques et dynamiques, donc on a 1, 2, 3, 4, mais aussi il y a une distinction qui fait qu'on a 1, 2, 3 d'un côté et 4 de l'autre, parce que les catégories modales sont spéciales en tant qu'elles qualifient le rapport de la connaissance à l'objet et non pas directement l'objet. Alors j'ai beau tourner tout ça, je vois pas en quoi ça aurait pu produire quelque chose d'autre quand même.
Parce que la catégorie de la nécessité,
fait, c'est juste pour la théorie, c'est juste pour la philosophie transcendantale, finalement. C'est juste pour les énoncés transcendantaux qu'il y a nécessité. Sinon, sinon c'est toujours difficile, l'expérience. Je me trompe ?
Non, c'est pas réservé à la philosophie transcendantale, parce que ces catégories modales, qui sont certes des catégories au fond secondes, puisqu'elles qualifient le rapport de la connaissance à un objet qui est constitué par les trois chefs précédents, elle n'en est pas moins objective. Elles sont secondes au sens où elles qualifient, entre guillemets, caractérisent le rapport de la connaissance à ces objets, mais elles les qualifient, ces rapports, elles le qualifient sur un mode lui-même objectif. Ils ont une portée objective comme les autres. Leur fonctionnement est distinct, elles travaillent... Non.
Qu'est-ce qu'il y a comme jugement qui implique la nécessité ?
Bah, affirmer une loi. Une loi, tout simple. Le possible, l'effectif et le nécessaire qualifient tous trois, ces trois modalités qualifient divers
en tant,
énoncés.
En tant que la loi est une détermination d'une catégorie de la relation.
Bah, c'est pour ça que vous voyez, sur le cas par exemple de la deuxième analogie de l'expérience, on a en effet ce contenu premier de la loi qui est un contenu relationnel, cause-effet, hein, mais cette loi, elle énonce la nécessité de ce rapport, et donc elle est aussi catégoriale sur un plan modal, mais, et donc on voit la secondarité, puisqu'il s'agit de dire que ce rapport causal, il est nécessaire, mais la nécessité qualifie de manière aussi objective le contenu de la loi que...
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la légalité de la nature, mm-hmm. elle dépend directement du fait que la nature est soumise aux catégories de l'entendement.
Oui.
En fait, ça répète juste ce qui est présent dans... C'est pour ça que je dis que ça ne vaut que...
Ça n'enrichit pas le contenu, disons...
Ça ne dit rien de plus.
Si, mais pas dans le contenu. Mais ça modalise, c'est ça le sens de la modalité. Mais le sens de la modalité est un plus.
En fait, n'importe quelle loi de la nature... est soumise aux quatre, à toutes les catégories.
Bien sûr. Parce
qu'elle est aussi soumise aux catégories de la quantité.
Bien sûr. C'est-à-dire, ce qui est vrai, c'est que ça n'enrichit pas le contenu, le rapport causal, si vous voulez, il est constitué causalement. Mais ce rapport causal, il n'a de sens qu'à être lui aussi modal, c'est-à-dire nécessaire. Et on ne peut pas distinguer les deux comme ça. Et surtout, si on revient à mon objet, je ne vois pas quelle différence ça pouvait produire dans le contenu. Si vous voulez. J'ai essayé, hein, mais... Rien. Pas d'autres questions ?
Un texte en moins à lire.
Non, justement, il faut le lire pour voir.
Ouais.
Bon, alors je déclare la séance levée.